Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonna Bolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade, pour les moissons, au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, vivre avec l'amour et aujourd'hui, tout quitter pour l'autre. Un documentaire de Christelle Le Polothèque réalisé par Nathalie Battus. Un chouette boulot, une bande de copains, une ville qu'on aime bien, des petites habitudes rassurantes, une famille dysfonctionnelle mais à laquelle on appartient, des traditions, un pavillon et son jardin, un cadre, sa boulangerie, son fromager, son quartier, son vélo, son usine, sa vieille auto, son chat grincheux, la vue qu'on avait de sa fenêtre, sa rue, son médecin de famille et sa gynéco, son psy, sa maison de vacances, des odeurs familières, son patron, sa raison sociale, son statut, ses collègues et sa machine à café, la place en crèche ou l'école du quartier, les tomates farcies de sa grand-mère ou la divine tarte aux pommes de sa mère, sa gigantesque armoire normande et son café préféré, c'est tout ce qu'on est prêt, ou pas, à quitter par amour, sur un coup de tête ou après mûre réflexion, pour tout reconstruire ailleurs, loin et dans une autre langue, accepter de se perdre un peu pour mieux se retrouver à deux. Alors aujourd'hui, deuxième volet, c'est le moment, on prend son élan.
Alors, avant de partir et de tout quitter pour l'autre, petit A, vous avez pesé le pour et le contre pendant des mois, analysé tous les paramètres et sous-pesé tous les risques. Petit B, vous n'avez absolument pas réfléchi aux conséquences, vous étiez trop excité à l'idée de partir. Petit C, la veille du départ, vous avez réalisé qu'il ne valait pas le coup de sacrifier tout pour lui. Alors moi, c'est B, c'est petit B. J'aurais tellement aimé réfléchir, et en fait, j'ai pas du tout réfléchi. La question s'est posée dans une cuisine, sur une petite table en bois. Il est arrivé un soir en me disant « Hey, on m'a proposé de partir à New York, qu'est-ce que t'en penses ?» Et moi j'étais là « Yes, on y va !» C'était New York, j'avais jamais mis les pieds, j'étais là « New York, c'est pour moi !» Donc non, j'ai pas réfléchi. Et en fait, ça s'est décidé en fin mai. On s'est mariés mi-juillet, et on est parti le temps de mettre tous les papiers. En fait, on est parti le lendemain. On a eu les visas en octobre, le 16 octobre. On est parti le 17 octobre 2002.
Sur les docks. Tout quitter pour l'autre. Christelle Le Polothèque, Nathalie Battus.
J'étais en fait en train de rénover un appartement d'une grande amie à moi qui venait d'acheter une petite boutique avec un appartement. Et c'est une période où j'étais un petit peu dans le doute après des années de travail. Je suis donc chorégraphe. Et puis je ressentais une certaine lassitude, surtout de ma vie à Paris. Et chose importante, j'avais quand même émis le souhait de partir de France. Et un peu comme une petite fille, je m'étais dit, ce qui serait parfait, c'est que je rencontre un homme, puisque j'étais seule à l'époque, qui soit d'un autre pays, n'importe lequel, et ce serait un bon alibi pour partir. Voilà, je m'étais dit ça peut-être il y a un an avant, on va dire. Et pendant la Coupe du Monde de foot, j'avais deux possibilités. Soit je partais à Prague avec des amis qui faisaient du cirque en camion, soit je restais pour rénover cet appartement de mon ami. Et j'ai décidé de rénover l'appartement de mon ami. En pleine chaleur, enfin c'était un petit peu masochiste. Et puis là, cet homme donc que j'ai rencontré, un Berlinois, qui venait d'être abandonné par sa femme, s'est retrouvé lui aussi à Paris et rénové l'appartement, lui la nuit et moi le jour. Et en fait, on s'est croisés. Moi, j'étais allée à Berlin en 1989, juste avant le mur, et j'avais beaucoup fantasmé sur cette ville, comme beaucoup de Français. Et puis on a eu l'occasion de se parler quelques fois. Il m'a donné son numéro de téléphone et ensuite il est parti. Et 15 jours après, on s'est écrit et j'ai décidé de prendre un aller-retour pour Berlin.
partir brutalement un soir, avec pour seul bagage quelques vêtements, un peu d'argent, deux ou trois bijoux emportés précipitamment, refermer la porte sur un foyer usé jusqu'à la corde, descendre pour la dernière fois un escalier dont on connaît par cœur le moindre recoin et qui paraît soudainement étranger. S'évanouir dans la nuit en laissant tout derrière soi pour rejoindre l'être aimé dans une gare, la salle d'attente d'un aéroport, une chambre d'hôtel. Tout quitter pour l'autre, un fantasme, le plus romantique des actes d'amour. Et puis il y a le réveil, le lendemain matin. Dans un train, un hall d'arrivée, cette même chambre d'hôtel qui n'a plus du tout le même aspect en plein jour. Se débarrasser de ce qui avait fait notre vie jusqu'à maintenant pour prendre un nouveau départ rend-il vraiment plus léger? Tout quitter pour l'autre. Ce n'est pas seulement ce moment de liberté et d'exaltation intense que l'on s'octroie fugitivement. C'est aussi tout ce qui se passe après. Du fantasme, on bascule dans la réalité. Une fois ce moment irréel passé, qu'est-ce qui arrive? C'est ce que nous avons demandé à trois femmes, à différents moments de leur histoire d'amour. Trois femmes qui ont en commun d'avoir tout quitté pour l'autre. Leur pays, leur travail et leurs proches.
Je suis en France depuis 5 mois. Bon, je suis née en Indonésie, je suis indonésienne. Je me suis installée ici, à Paris, à cause de mon mari. Il a du travail à Paris. Il y a 2 ans, quand j'ai rencontré avec lui à Jakarta, après 7 mois, on s'est mariés. Il a travaillé à Bornéo, à Kalimantan, et moi, j'habitais à Jakarta.
Parce que lui, il est français.
Il est français, il est né ici, il est né à Paris.
Et qu'est-ce que vous faisiez, vous, à ce moment-là, quand vous avez rencontré votre mari à Jakarta? Vous travailliez?
Oui, à ce moment-là, j'ai travaillé... À Jakarta, dans la société de pétrole. Et après, on s'est mariés, j'ai quitté mon travail.
Je me souviens, à ce moment-là, je travaillais sur un film. J'étais coach pour une actrice et j'étais partie à Locarno. Et je me souviens que je n'ai plus dormi les 3 nuits qui ont précédé mon départ à Berlin parce que tout d'un coup, et c'est surtout peut-être le retour des amis avec qui j'étais qui m'ont dit « Mais t'es complètement folle, tu pars chez quelqu'un que tu connais pas et t'es sûre que t'es pas amoureuse de lui ?» Je dis « Mais non, pas du tout. » Et là, j'ai commencé à plus dormir parce que tout d'un coup, je me souviens très bien que j'ai commencé à me mettre en tête que peut-être, en fait, j'étais amoureuse. Et ça m'a évidemment empêchée de dormir parce que je me suis posé toutes les questions de détails. Où est-ce que je vais dormir? Est-ce que j'ai une chambre pour moi? Et puis finalement, peut-être qu'il y a un malentendu. On ne se connaît pas. Et ça a été 3 jours assez épouvantables. Mais enfin, je suis partie. Là, j'ai réfléchi quelles chaussures j'allais mettre, etc., etc. Enfin, en fait, comme une amoureuse qui se prépare, en fait, soyons sincères. Et puis, voilà, puis j'ai débarqué à Berlin. C'était en août 98. Et les premiers jours ont été un peu pénibles. Déjà parce qu'on n'a fait que marcher. Je pense que c'était aussi un petit peu pour... avoir une contenance, puisque donc je suis arrivée chez lui. J'étais très déçue, il n'y avait pas sa fille, parce qu'au départ, je me suis dit, ça sera plus facile s'il y a sa petite fille, elle n'était pas là, donc il l'avait garée chez sa mère. Pour moi, c'était un signe déjà un peu précurseur que quelque chose allait se préparer. Et donc, les premiers jours, on a arpenté Berlin, peut-être, on va dire, 4-5 jours comme ça, où on était juste à marcher. Il ne parlait pas le français, moi, je ne parlais pas l'allemand, donc on parlait en anglais assez difficilement. Et puis, nous sommes allés voir le concert de Rammstein, que je ne connaissais pas à l'époque. Et retour du concert de Rammstein, on s'est retrouvés à se croiser dans le couloir. C'était 2h, 3h du matin. Et puis, il se met devant moi et il me dit, je pense qu'il avait préparé sa phrase. Il est allé voir dans le dictionnaire, il me dit, est-ce que je peux vous baiser? Et il voulait dire, est-ce que je peux vous embrasser? C'était très mignon. Donc, j'ai éclaté de rire et je me souviens très bien que je ne savais pas ce qu'il fallait que je dise. Et j'ai dit oui. Et puis, voilà comment l'histoire a commencé.
Au début, c'est pas vraiment facile pour moi parce que, oui, on a parlé beaucoup pour quitter mon travail, pour déménager à Paris. Mais pour moi, c'était une décision très importante dans ma vie parce que ça fait longtemps que j'ai envie de m'installer avec quelqu'un. J'ai de la chance pour le faire, mais il est français, donc ouais, c'est comment dire. I'm ready to do it, you know.
Vous étiez prête à le faire.
Oui, mais surtout pour ma famille, c'est un peu difficile pour eux de me laisser pour aller à l'étranger, quoi. Il y avait une décision sur moi qui est très très forte, mais ils sont pas très contents, quoi. Donc, ouais. Voilà, mais maintenant ça va aller. Je suis mature, je suis grande maintenant, je suis pas une petite fille, donc j'ai de la choix. Donc oui, si je suis contente, ils sont contents, mais c'était pas très facile, même pour moi. Mais life is like that.
Emporte-moi loin d'ici. Emporte-moi loin d'ici.
Expatrié à l'autre bout du monde, qu'est-ce qu'il vous manque le plus ? A, vos collègues de travail, B, votre famille, C, les cafés en terrasse avec vos amis, D, rien du tout, vous n'avez jamais été aussi heureuse que depuis que vous avez mis 1000 km, ouais, 1000 un peu plus, de distance avec eux. Donc, ma famille me manque, mes collègues de travail, les terrasses en terrasse avec vos amis, et je suis assez contente d'être à New York aussi. Donc, non, mes amis me manquent et ma famille.
Ça a été extrêmement rapide. Je suis rentrée à Paris donc avec un sentiment d'être absolument complètement amoureuse. Et je lui ai dit, on n'en a pas parlé, mais je me sens prête à partir. Hein. C'était fou parce qu'on a passé 15 jours ensemble, quoi. Lui, il est revenu à Paris assez vite après. On a fait un voyage spontané en Irlande. Je crois que là, on a évoqué la dernière nuit qu'on a passée parce qu'il a raté l'avion pour Berlin. Donc, on avait un jour de rab, disons. Et je me souviens, je pense que je lui ai dit que je partirais bien. Et j'ai vu, c'était très clair, qu'il se réjouissait de cela. Et ensuite, j'ai eu beaucoup de travail en France. Ce qui a précipité les choses, en fait, c'est que, donc il faut savoir qu'il avait déjà 2 enfants, que moi qui n'avais jamais eu désir de fonder une famille, et j'avais absolument pas eu une fois l'envie d'avoir un enfant, j'ai très très vite eu envie d'avoir un enfant avec lui, mais très vite, quoi, on va dire, je sais pas, peut-être 2 mois après. Donc, je pense qu'un jour je lui ai dit, et il m'a dit, je fonderais bien un clan avec toi. Voilà. Et puis, j'étais enceinte 8 mois après notre rencontre. Et c'était un enfant donc qu'on a souhaité avoir et qui est venu très, très vite. Et je n'habitais pas encore là-bas, je n'avais pas encore déménagé. Mais c'était très clair que j'allais le faire très rapidement ensuite. C'est donc ce que j'ai fait, on va dire, un petit peu plus d'un an après notre rencontre. Donc, J'ai mis toutes mes affaires dans un garde-meuble à Paris. J'ai pas emmené mes affaires. Je suis partie juste avec mon piano et une table qui appartenait à ma grand-mère et 4 fauteuils, 2 valises et je suis partie à Berlin.
Bless the one who wants to have me.
Après, deuxième question, donc c'est quelle est la première chose que vous faites une fois sur place ? A. Vous vous inscrivez dans un cours accéléré pour apprendre la langue du pays. B. Vous foncez sur les petites annonces pour trouver du travail, hors de question de perdre votre indépendance financière. C. Vous filez à l'institut de beauté le plus proche, vous allez enfin avoir du temps pour vous et vous avez l'intention d'en profiter. Non. La première chose que j'ai faite, on arrivait donc le jeudi soir, mon fraîchement marié compagnon, il allait travailler lui le vendredi matin, donc on arrivait le 17 octobre, il est parti travailler le 18 octobre, et moi j'étais toute seule dans la maison, parce qu'en fait on était hébergés chez des gens avec qui il travaillait, donc il y a eu un tourbillon le matin, tout le monde était là à se disputer la salle de bain, ils sont tous partis, et moi j'étais toute seule. Dans l'appartement et j'avais jamais mis les pieds à New York, on était à Brooklyn. J'ai pris le métro et je me suis retrouvée à Central Park. Et j'étais au milieu de tous les buildings parce qu'en fait il y a plein de géographies différentes à New York. Brooklyn c'est assez bas, il n'y avait pas encore beaucoup d'immeubles dans le quartier où on habitait. C'était plutôt des entrepôts de même pas un étage. Et je me suis retrouvée entourée de tous les immeubles qui étaient proches de Central Park. Columbus, enfin tous les coins, et j'ai voulu aller m'acheter un café. J'étais là, waouh! Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être toute seule, de marcher vraiment toute seule, d'être lâchée dans une ville, dans un pays, avec ma valise. Enfin, j'avais vraiment décidé de. J'étais même pas allée visiter la ville, alors que la boîte qui embauchait mon mari m'avait dit, venez un week-end pour être sûre. J'étais là, non, c'est bon, je suis sûre. Et on avait tout bouclé. Je voulais arriver avec mes valises et me dire, il n'y a plus de choix. Enfin, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que quelque part, j'étais sûre que j'allais revenir en arrière si j'avais le choix. J'allais commencer à me poser des questions alors qu'en fait, je n'avais pas envie de m'en poser. Pour moi, c'était évident. Ce serait une expérience, mais en tout cas, on la ferait, on irait jusqu'au bout. Et donc, je suis allée m'acheter un café. Donc j'étais avec mon gobelet en carton dans la ville. Je venais de payer 2,50 $ mon café. Je me souviens du prix parce que je trouvais ça hyper cher. Et j'étais là, waouh, tout est cher, je suis pauvre, j'ai plus d'argent, j'ai plus de métier, j'ai plus de salaire. Et donc je suis allée me balader, il y avait tous ces gens, même ces mères au foyer qui étaient avec leurs poussettes, qui joguaient dans Central Park, qui avaient l'air super actives, avec de la musique, des baskets aux pieds, hyper musclés, les petits bras musclés, un nouveau-né dans la poussette, et des gens qui bossaient, qui devaient aller au travail et qui étaient encore en train de jogger. Mais tout le monde était hyper actif, il n'y avait personne qui glandait, quoi. J'étais la seule. J'étais là, au ralenti, au milieu de tout ça. Et on m'avait parlé, une personne que j'avais rencontrée dans mon travail m'avait dit, j'ai une copine qui a un restaurant français à New York, vas-y de ma part. Tu vas la voir. Et moi, j'étais là, non, c'est bon, pas de problème, je trouverai un boulot, il n'y a pas de problème. Et là, tout de suite, j'ai foncé dans le premier kiosque à magazine et j'ai cherché le restaurant français en question. J'y suis allée et j'ai dégoté un job dans un restaurant français. On me proposait de m'occuper de la boutique et de vendre du foie gras. J'étais là, yes, ça me va très bien. Je commençais le mercredi qui suivait. Et je suis allée retrouver mon mari. Enfin, ça me fait bizarre, parce que c'est toujours bizarre de dire mari, mais c'est mon mari. Et je suis allée le retrouver pour déjeuner, à midi. Et je lui dis, j'ai trouvé un boulot. J'étais tellement fière d'avoir réussi à me débrouiller toute seule et d'avoir trouvé un job tout de suite. Et tout le monde était hyper fier pour moi. Dans sa boîte, tout le monde était là, c'est super, yes, great, that's great, wonderful. Tout le monde était là en train de me féliciter pour mon job pourri dans un restaurant. Et voilà, et j'étais assez fière quand même. Mais ça n'a pas duré longtemps. Je suis le questionnaire.
Comment elle s'est prise, du coup, cette décision ? J'ai l'impression que, du coup, le fait de tomber enceinte faisait partie du processus, mais ça a été quelque chose qui s'est fait sur un coup de tête ou ça a été mûrement réfléchi ?
Non, c'était absolument pas réfléchi. Je pense qu'il y avait vraiment... C'était exactement l'homme qu'il fallait et passé exactement au bon moment dans ma vie. J'attendais cette occasion et j'ai pris le train. Et j'ai sauté sur l'occasion, on va dire. Et je pense à l'époque que je me sentais capable, moi qui n'avais fait que travailler, qui avais vécu un peu une vie de patachon, j'avais vraiment envie d'une autre vie et je me suis rêvée un petit peu femme à la maison avec plein d'enfants et celui qu'on allait avoir ensemble.
C'était ça votre motivation ?
Oui, ça faisait partie de la motivation, ouais. Et c'était l'homme qui me paraissait absolument parfait pour la situation. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que dès le départ, je n'ai fait que vivre dans un fantasme hein, qui se modifiait au fur et à mesure de ce que je vivais. Et j'ai finalement très peu vécu avec la réalité. Hein. Ça doit être dans ma nature, hein, je pense.
Les semaines passent et la réalité n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez imaginé. Petit A, vous lui rappelez qu'il était engagé à rentrer sur le champ à Paris si la situation ne vous convenait pas. C'était dans le deuxième paragraphe des conditions que vous lui aviez fait signer avant de partir. Petit B, vous gardez vos réclamations pour vous en attendant de voir comment les choses vont évoluer. Et petit C, vous vous plaignez en permanence afin qu'il réalise pleinement le sacrifice que vous faites pour lui. Alors en fait... En fait, il n'y avait pas de retour possible. Hein. On avait décidé que j'allais pas en week-end à New York, qu'on prenait les valises et qu'on y allait. Et je crois qu'en fait, j'ai pas arrêté de me plaindre pendant... Je peux parler en années plus qu'en semaines. C'est horrible. Je lui ai fait payer. Et en fait, je crois que ça fait peu de temps que je suis complètement... Enfin, je suis complètement d'accord sur le choix qu'on a fait. Mais c'est récent, donc voilà.
Mais c'est vrai que du coup, ça ressemble un peu à une sorte de conte de fées. Vous, quelques mois auparavant, vous rêvez de partir à l'étranger en vous disant que l'idéal, ce serait de rencontrer l'homme qui vous permettrait ce voyage.
Ben oui, j'ai fait un vœu et il s'est réalisé. Donc c'est vrai que pour moi c'était béni, hein, et je pense honnêtement que je n'ai regardé que ce que j'ai voulu voir, hein, ça c'est sûr, j'ai continué à faire de la mise en scène, absolument.
Ce qui était donc votre métier.
Oui.
Donc finalement, bref. Alors vous arrivez à Berlin, et qu'est-ce qui se passe justement entre le fantasme et la réalité ?
Alors j'arrive à Berlin un mois avant d'accoucher. On m'avait énormément déconseillé de venir accoucher en Allemagne puisque je ne parlais pas un mot d'allemand. Ma sœur m'avait dit « c'est terrible, ne fais pas ça, reste avec nous ». Il y avait déjà un peu un déchirement parce que toute ma famille, il faut quand même imaginer, était un petit peu choquée par cette décision subite. J'étais de la famille, celle vraiment sur qui ma mère m'avait même déconseillé d'avoir des enfants. C'est un peu spécial de la part d'une mère, mais enfin, c'était ce que je m'étais entendue dire. Et donc j'arrive à Berlin un mois avant d'accoucher et la première chose ça a été l'accouchement en allemand quand on parle pas une langue avec le papa qui lui ne parlait pas le français donc qui me traduisait en anglais ce que les trois sages-femmes qui se sont relayées pour faire naître cet enfant. Donc ça a été un accouchement sportif. Et puis toute la suite qui va avec, c'est-à-dire toutes les choses du quotidien. Bon, là, je vais parler surtout déjà des pédiatres. Je me souviens revenir en pleurs parce que je ne comprenais pas un mot. J'étais toute seule avec le bébé, puisque donc, le papa du bébé travaillait toute la journée. Et donc, je me suis dépatouillée très mal avec toutes ces questions du quotidien, beaucoup pour des questions de langage. Et deuxièmement, pour une maman... une nouvelle maman avec un bébé, une solitude totale. Donc, je n'avais aucun ami à Berlin. Donc, j'étais, on va dire, la première année absolument seule avec un bébé dans une ville qui m'était parfaitement étrangère et où j'ai très vite vu que j'avais absolument sous-estimé, la difficulté, les difficultés d'un déménagement. De toute la suite, c'est-à-dire la première année, je n'ai pas travaillé, j'ai élevé mon enfant beaucoup toute seule et je n'avais même pas encore le temps d'apprendre l'allemand. Donc voilà, ça c'était la première année.
Et ça vous plaisait alors, l'idée d'aller à Paris ?
Oui, ça change beaucoup pour moi, évidemment. Mais j'aime bien, oui. Et il y a pour moi, maintenant, c'est encore le moment d'adaptation. Parce que c'est, pour moi, c'est la première fois pour rester à l'étranger. Oui, mais j'aime bien.
Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile, justement, en arrivant ici ? C'est-à-dire que pour une fois, ce n'était pas des vacances. Oui. J'imagine que votre mari devait travailler la journée. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous avez vécu ça, les premiers temps de votre arrivée à Paris ? En plus, c'était en plein hiver.
Oui, c'était cet hiver, c'était la pire dans ma vie parce que c'était très froid, très très froid. Et au début, c'était la première semaine, on a décidé pour chercher l'école pour moi, pour prendre un cours de français. Donc, je ne m'ennuie pas. Et en plus, j'ai déjà beaucoup d'amis qui habitent ici. Ils sont indonésiens aussi. Donc, ouais, de temps en temps... prendre déjeuner ensemble ou un truc comme ça, un café, un truc comme ça. Mais après, comme j'attends le bébé, donc je juste attends pour l'accouchement et après on va voir quoi.
Et il vous a fallu combien de temps pour ça, pour vous reconstruire en fait votre vie à vous dans ce nouvel environnement, ce soit professionnel ou amical ou juste voilà.
Je le fais encore, hein. 10 ans après, c'est encore en chantier. Hein. Alors bon, ça peut durer toute une vie, mais c'est très long, c'est très long, c'est très long de se reconstituer un entourage, surtout quand on n'a pas la langue. À partir de 2 ans à Berlin, j'ai pu commencer à m'exprimer. Il faut savoir que je suis une grande bavarde, que j'aime beaucoup la société, que je me suis retrouvée quand même assez fréquemment dans des soirées d'amis qui font des vannes, qui chantent des chansons, qui sont sous. Et j'étais la potiche de service, quoi. Tous ceux qui ont vécu dans un pays étranger et qui ne parlent pas la langue savent ce que ça veut dire. C'est terrible, on devient paranoïaque. On rit après les autres. Il y a toujours quelqu'un de gentil qui va se pencher vers vous puis pour vous dire « Tu n'as pas compris, je t'explique, ça prend 20 minutes, on en est déjà 10 blagues plus loin. » Et moi, je le vivais très mal, hein, parce que j'ai mon ego, ma fierté. Je suis plutôt celle en général qui est plutôt bout en train dans les soirées et je supportais pas. Et j'étais la copine donc du papa de ma fille en permanence, quoi. Et c'est, j'avais plus d'identité, quoi. Et ça c'était terrible, ça.
For you I was a flame. Love is a losing game. Five-story fire as you came. Love is a losing game. One I wish I never played. Oh, what a mess we made. And now the final frame. Love is a losing game.
Ça a changé votre relation avec votre mari de venir ici, de s'installer ici en France, de vous retrouver dans son univers à lui.
Je pense que ça change parce que maintenant c'est la fille. Vraiment que je veux, quoi. Parce que on est ensemble tous les jours. C'est pas comme on était en Indonésie. Quand on était en Indonésie, il a travaillé pour un mois dans le site. Donc, on se voit pas. C'est pas facile comme vie. Donc, moi, je préfère la vie comme maintenant. C'est normal. La vie normale, il est travaillé dans le bureau tous les jours. Donc, on se voit la nuit, l'après-midi. Donc, c'est ça ce que je veux. Je pense que c'est un sacrifice pour moi, quitter ma famille, Indonésie, pour lui aussi quitter le travail qu'il aime bien, parce que pense que il aime travailler dans le site, par exemple. Il préfère travailler comme ça, à moins sur deux. Dans la relation, je pense qu'on doit faire compromis tous les deux et sacrifice. Donc, oui.
Eh bien, ça a été un peu, on va dire, comme un ver qui ronge la pomme. C'est-à-dire que là, c'est très difficile de parler à la place de quelqu'un, mais je pense que ces charges successives donc, qu'il devait assumer, c'est-à-dire d'être sans arrêt là pour me guider, pour m'expliquer comment fonctionnaient les administrations, pour m'écrire mes lettres de candidature, pour m'expliquer comment marchaient les notes de téléphone, les modes de paiement, la banque, toutes ces choses du quotidien. Et comme il était donc le seul ami que j'avais, hein, tout en étant donc mon amoureux, le papa de ma fille, c'était trop lourd. Hein, il avait aussi ses problèmes à lui, donc et d'artiste, et d'homme, et de père. Et comme c'est un être plutôt secret et qui est courageux et qui ne se plaint pas, ce qui est absolument, on va dire, à l'opposé, parce que moi, je me plains beaucoup, je me déchargeais donc aussi énormément sur lui, ça nous a fait du mal parce que il a petit à petit pris le rôle de celui qui est positif et qui est tout le temps souriant. Et moi, j'ai petit à petit pris le rôle d'une femme qui se plaint, qui est malheureuse, et qui pleure beaucoup, on va dire, je schématise, hein, c'est juste pour un petit peu, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Et donc, quand j'ai pris conscience qu'on était dans deux rôles très, très précis, qui n'étaient pas les bons, parce que c'était, on va dire, une forme comme pour équilibrer un bateau, ça penche d'un côté, il fallait donc rééquilibrer l'autre côté, c'était déjà un peu trop tard. Parce que ça devenait très difficile de recasser, c'était des carcans, et je pense qu'on n'est pas arrivé... même si on en a beaucoup discuté, on s'est battu, etc. Mais je pense qu'on n'est pas arrivé à se débarrasser de ces carcans-là parce que ça a été des carcans d'urgence. Il a fallu faire face à une situation d'urgence. Il y a eu des moments où j'étais vraiment très mal, très seule. En plus, je n'ai pas à m'enfoncer le couteau dans le ventre parce que je pense que toute femme qui serait dans ma situation aurait eu aussi beaucoup de difficultés. Simplement, il m'a manqué du soutien.
Mais vous l'avez rendu responsable de ça, de vos difficultés ou...
Au début, je ne pense pas. Non, jamais. Ça, c'est venu dans un second temps.
Ah, parce qu'il y a un second temps.
Il y a un second temps où la situation change. Je suis plus autonome dans ce pays dans lequel j'habite. Je parle la langue, j'ai mes propres amis, j'ai des contrats. Donc, j'ai beaucoup moins besoin de lui au niveau du quotidien. Et puis là, je parle en mon propre nom, il y a une forme de désamour qui se met en route. Alors, je ne peux pas vous dire l'origine, je ne sais pas. En tout cas, il y a une petite déception. Je m'étais fait évidemment une image très précise de ce que j'allais vivre, et ce n'est pas ce qui se passe. Et au moment où, on va dire, je pourrais me détendre, je me rends compte qu'entre nous, ce n'est plus tout à fait ça. Il faut dire aussi qu'il a été très très absent, il était très très souvent parti, donc j'ai été beaucoup 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 seule aussi avec mon bébé et ma petite fille. On s'est perdu de vue aussi, parce que parfois il rentrait que tous les 15 jours. C'est moi qui l'ai poussé à faire ça, hein, parce que c'était un poste fixe donc dans un théâtre. Ça me semblait pour lui plus juste par rapport aux contraintes financières auxquelles il avait à faire face. Et finalement, ça nous a encore plus éloignés.
Love is a losing hand.
Comment votre couple a-t-il survécu à cette expérience? Petit A, il est plus soudé que jamais. Affronter les difficultés à deux vous a permis de mieux vous connaître. Petit B, il n'a pas résisté. Vous vivez désormais avec John, son collègue. C'est ça va, mais l'idée de pouvoir un jour tout quitter pour rentrer à Paris n'est jamais loin de votre esprit. Alors petit C et petit A. Alors c'est vrai que l'idée de pouvoir un jour tout quitter pour rentrer à Paris, on en parle régulièrement. Enfin, je pense, j'en sais rien. Peut-être que, enfin, c'est bizarre parce que quelque part, on est devenu parents, mariés, en couple, en même temps que on est parti à New York. Donc, je sais pas ce que les choses auraient donné sur Paris. Enfin, je peux pas dire si c'est vraiment différent de ce qu'on aurait pu vivre sur Paris. Mais on a été, hein, on est tout le temps confronté à des choix, que ce soit des choix d'appartement, d'avoir de la lumière dans son appartement, d'avoir de la surface, d'être en difficulté, d'avoir l'impression de comprendre des relations avec des gens, puis en fait on est complètement à côté de la plaque, on n'a pas compris, on est constamment ébranlé par plein de choses, et puis à la fois parfois il y a des moments un peu miraculeux où tout se passe bien, mais régulièrement en tout cas on prend le temps de parler et de remettre un peu tout chaque fois sur le tapis et sur la table. Partir à New York, ça a toujours été dans notre idée, enfin dans notre esprit, une expérience qui ne devait pas durer, qui serait une expérience de 3 ans qu'on renouvelle depuis 8 ans. Mais c'était une expérience courte dans sa durée. Enfin, c'est bête à dire, j'ai l'impression que chaque année, on se dit, allez, dans 2 ans, on rentre. Mais c'est vrai, on est tout le temps en train de tout remettre. Donc, on parle de l'éducation de nos enfants, de notre couple, de notre boulot. Enfin, il y a tout qui y passe. Et quelque part, ça nous a... Je pense que ça nous a pas mal soudés. Donc, petit A et petit C. Ça va ensemble.
Je m'interdis d'avoir de la nostalgie. Parce que je pense que la situation, on va dire, donc là on est, on va dire, en 2004, hein, 4 ans après mon arrivée, grosso modo. Je tiens à cette histoire de cette famille qui se construit comme à la prunelle de mes yeux. Donc, de toute façon, et là on peut parler de sacrifice, je suis prête à faire tous les sacrifices et toutes les concessions pour que cette histoire continue d'exister. J'aime cette histoire. J'aime comment elle s'est faite. J'aime cet homme. Et évidemment, nous adorons notre enfant. Donc, toute chose qui pourrait venir ternir, je l'évacue. Et pour moi, laisser libre cours à la nostalgie de la vie que je mène, c'est, même si c'est faux, hein, c'est une façon de dire, je renonce, je repars. Il voit que la vie...
Vous n'êtes pas heureuse dans cette ville, ou vous n'êtes pas heureuse dans ce pays, ou vous n'êtes pas heureuse dans cette relation à ce moment-là? Comment vous voyez les choses?
Oh, c'est tout en même temps. C'est tout à la fois. C'est très difficile de dire c'est ça et pas ça. Je pense que c'est tout à la fois. Je ne suis pas heureuse dans cette ville, je ne suis pas heureuse dans ce pays, je ne suis pas heureuse dans cette relation. C'est le sentiment que j'ai. Mmh. Finalement, je me suis souvent dit peut-être que j'étais quand même heureuse. Mais en tout cas, je décide peut-être que je ne suis plus heureuse. Parce que, encore une fois, je me suis fait un conte de fées et je ne vis pas le conte de fées que je m'étais fait.
Quel est le jour où vous avez le plus regretté d'avoir tout quitté pour lui ? Petit A, le jour où il vous a avoué qu'il ne vous aimait plus. Petit B, le jour où vous êtes aperçu que même vos enfants se moquaient de vous en secret à cause de votre accent. C, le jour où vous vous êtes rendu compte que votre yaourt favori n'était pas en vente dans les supermarchés. En fait, je crois qu'en fait, il y a une copine qui est venue, qui travaillait dans une grande institution d'art contemporain et qui me racontait un peu tous les artistes qu'elle exposait, qu'elle présentait, tous les gens qu'on connaissait en commun, qui n'arrêtaient pas de passer d'exposition en exposition. Et moi, j'avais mon ventre de baleine. Mais vraiment, j'étais énorme. J'étais déjà énorme. J'étais enceinte. Et j'étais en train de me dire, merde, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis là, j'ai un bébé, je fais plus rien, tout le monde avance et moi pas. Et d'un coup, je me suis dit, mais oui, lui, il est là, il est à New York, il a son job, il a une... Quelque part, c'est une promotion dans une boîte de passer de Paris à New York. Et moi, non, rien. J'avançais plus du tout, alors que ça faisait 6-7 mois que j'étais à New York. Donc là, ouais, je commençais à me demander un peu ce que je faisais. Et puis ça continue de temps en temps quand on me dit que les gens avec qui je bossais sont toujours à leur place, qu'ils ont fait plein de super projets, que moi j'ai 2 enfants, c'est formidable, mais j'ai rien fait de plus que ça. Non. Alors, il m'est arrivé un truc il n'y a pas très longtemps, cette année. Parce qu'en fait, ma fille, elle a 6 ans et elle est maintenant dans une école, elle est en équivalent de CP. Et c'est une école bilingue, mais enfin une école publique américaine. Et en fait, elle est hyper gênée, mais elle prend ma défense. C'est pas elle qui est embêtée par rapport à mon accent. En fait, elle prend ma défense et ça, c'est horrible. Non, c'est horrible. Je la sens super malheureuse quand ses copains se moquent de mon accent ou qui comprennent pas. Et elle parle, elle répète constamment quand il y a une playdate, puisque c'est hyper fréquent les playdates à New York. On fait des playdates après l'école. Comme il n'y a pas de système de garde, il faut bien s'organiser. Donc les mères organisent des playdates. L'école s'arrête à 3h30, les gens qui travaillent jusqu'à 6h, il faut qu'ils se débrouillent, donc on fait des playdates, il y a des after school. Mais bon, souvent, il y a des copines, moi je récupère des copines de ma fille ou des copains, et je leur dis « What do you want, my dear ?» Hot chocolate. Et là, elle a hot cocoa, avec son super accent. Et elle explique, elle est désolée. Oui, mais ma mère, elle est française. Et en fait, elle leur propose elle-même le goûter. Enfin, c'est-à-dire que moi, ce que je propose, elle répète tout. Et elle leur propose tous les trucs. En fait, elle se met entre... Elle fait le lien entre moi et les copains. Et quand il y a des copains qui disent des trucs, qui parlent, je l'entends parler hein, de temps en temps. Et je l'entends, un jour, j'ai entendu « She's French ». Et ça, ça me met hyper mal à l'aise pour elle. Pas pour moi, mais vraiment pour elle. J'ai l'impression qu'elle est vraiment gênée. Et je me dis, combien de temps ça va durer? Là, elle a 6 ans, mais quand elle en aura 10, ça se trouve, elle les invitera plus à la maison à cause de moi. Donc j'en sais rien. Ça, c'est un peu gênant, quoi. Mais c'est pas pour ça que j'ai regretté d'avoir quitté la France. C'est pas non plus le problème d'accent, mais en tout cas, waouh, le fait de voir son enfant gêné de temps en temps, là ça va encore, on peut en rire, mais dans quelques temps ce sera peut-être un peu difficile, quoi. Je sais pas, mais j'attends. Et aussi, le fait d'avoir un enfant... Enfin, ça, c'est un peu mixé, il y a plein de trucs où je me dis, oh, on a quitté, nous, sans trop se poser de questions, on a fait nos enfants là-bas, on a fait des Américains, ils ont le passeport américain, parce que quand on est sur le territoire américain, on est américain. Et en fait, un jour, en rentrant, enfin, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, donc ma fille avait 4 ans, et on atterrit, j'étais avec ma belle-mère, et il y a ma fille qui regarde... Là, par l'aéroport, enfin, on voyait New York, on voyait les buildings hein, en arrivant à JFK et à l'aéroport. Et en fait, on voit les buildings et ma fille me regarde en me disant « Waouh, je suis contente d'être rentrée à la maison !» Et moi, j'étais tellement nouée d'avoir quitté la mienne encore à chaque retour de vacances. C'est toujours un peu d'être quitté la famille, les amis. Et elle était tellement contente de rentrer chez elle. Et là, je me suis dit « Waouh, il y en aura toujours un de nous qui quittera quelque chose !» Et ça, c'est un truc auquel on n'avait pas du tout pensé, mais bon, ça va s'affirmer avec, je pense, avec l'adolescence. Donc, on va essayer de on va essayer de rentrer avant.
On parlait des différences culturelles. Est-ce que il y a aussi des différences religieuses entre vos deux familles? Est-ce que c'est une question pour vous?
Oui, je suis musulman. On se marie, il chante.
Il s'est converti.
Il s'est converti pour se marier avec moi. Pour moi, c'est important. Mais I ask him to convert, but I don't want to force also in the same time. So.
Vous lui avez demandé, mais vous ne vouliez pas le forcer non plus.
Oui. I cannot force him to practice also, you know.
Ah, maintenant vous voudriez qu'il pratique?
Peut-être. I'm very happy if he can. No, ouais, c'est ça.
Vous êtes très exigeante aussi.
C'est le balance, quoi. C'est le balance. Je sacrifie. Je pense que je sacrifie beaucoup aussi. C'est l'un et l'autre, c'est se sacrifie aussi le même état, quoi.
Quel est le jour où il a regretté que vous ayez tout quitté pour lui? Petite A, le jour où vous lui avez avoué que vous étiez tombée amoureuse de John, son collègue. Petit B, le jour où toute votre famille a débarqué à la maison pour un mois, ben oui, c'est le mois, il faut rentabiliser le voyage. Petit C, le jour où vous avez mis son compte à découvert après une journée de shopping et que vous lui avez expliqué que s'il s'imaginait que vous aviez quitté votre boulot en or à Paris pour vivre comme un rat à New York, il se mettait le doigt dans l'œil. Alors il y a du C, de mon côté. C'est clair que je me suis acheté un jour un pull à 100$ et que ça avait fait une histoire d'une semaine. Alors que 100$, on n'a plus rien. Moins de 100$. Mais bon, j'étais enceinte et j'étais moche. Et non. Le truc, c'est que je crois qu'en fait, le jour où il a vraiment regretté, c'est ni A, B, C, je vais faire un D. C'est plutôt le jour où... il me voyait ratatiner. On était avec ce petit bébé, on devait être super heureux, on venait d'avoir une petite fille géniale. Enfin, on ne savait pas encore qu'elle serait géniale, mais elle est géniale. On avait ce bébé dans les bras, et au lieu de vivre paisiblement ce moment-là, on était plutôt en train de se dire, mince, qu'est-ce qu'on fait ? Elle est américaine, on est français. Enfin, je ne sais pas, ça mélangeait tellement de choses. Et je crois qu'en fait, tous nos stress, l'un et l'autre, au niveau financier, de garde, problème de garde, il n'y a pas de système de garde à New York. Enfin, c'était évident que soit je payais, mon salaire allait payer le système de garde d'une babysitter. En gros, j'allais gagner le salaire que la babysitter allait gagner elle aussi. Enfin, là, à ce moment-là, ça a été super dur. Parce que c'était là qu'il y avait vraiment un choix à faire. Est-ce que je bosse et je m'occupe pas, donc du coup, je vois mon enfant le soir. Ou est-ce que je m'occupe de mon enfant et on est content avec ce qu'on a. Bon, finalement, on a décidé d'être content avec ce qu'on avait. Mais le moment où on a été content a été plutôt long. Enfin, ça a mis du temps pour en arriver là.
Il y a quelques signes précurseurs. À partir de 2006, secrètement, je commence à me rendre à l'évidence que j'ai envie de me séparer de lui. Simplement, comme je le disais tout à l'heure, je suis tellement accrochée... à cette histoire, je veux que cette histoire se perpétue, donc d'ailleurs tous les deux on se bat vraiment avec tous nos possibles pour continuer à faire vivre cette histoire à tous les prix, donc on continue de vivre ensemble et je pense tous les deux en sachant qu'on finira par se séparer. Et pour moi ça devient un petit peu dramatique aussi parce que je me dis, si on sépare, je rentrerai en France. C'est comme une évidence. Et ça veut dire deux pays pour ma fille. Enfin, ça veut dire un millier de complications. Ça veut dire l'arrachement d'un enfant à son père, la question de savoir comment on va vivre entre deux pays. Et donc, je me souviens très bien que les premiers moments où je commence à y penser, j'ai des frissons dans le dos. Je me dis, je pourrais pas faire face. Comment on va faire ? Enfin, ça me paraît insurmontable.
Mais le fait d'avoir tout quitté pour lui donnerait plus de valeur à cette relation. En tout cas, fait que cette relation mérite de se battre pour elle.
Oui, absolument. Ouais. Absolument. Ouais. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous aviez employé le mot sacrifice, mais là, on pourrait le réemployer maintenant, simplement en disant « J'ai fait tout ça, et donc je vais soigner ça comme un bijou magnifique. Donc jusqu'au bout, je vais le... Comme un objet qui commence à s'ébrécher, je recolle tous les morceaux parce que je ne veux surtout pas abandonner ce vaisseau. Et tous les deux, hein Et puis parce que bon, après ça c'est la question de la relation amoureuse. De toute façon, on sait pas, on continue de s'aimer, même encore maintenant, on s'aime. Il y a quelque chose qui n'est plus possible, mais on se dit on s'aime, on va pas faire ça. On peut encore. Et donc on met des mois et des années à en arriver à cette décision. Je ne rentre pas parce que j'ai pris conscience que je me suis construit une vie à Berlin sans m'en rendre compte. Et je m'en rends compte finalement très tardivement. Je me suis rendu compte cette année qu'il y avait des gens pour qui j'étais importante. Ils me l'ont fait savoir, donc ça a été très important. Je ne rentre pas parce que je suis attachée au père de ma fille et que ma fille a besoin de son père. Et comme elle est encore très jeune, je ne prendrai cette décision et je pourrai la prendre, et il en est question, que quand... il y aura un but professionnel qui me permettra de partir ailleurs ou de revenir en France, je ne sais pas, avec la sensation que je vais y trouver, on va dire, une sécurité déjà professionnelle. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que je ne ferai pas à nouveau un tel chambardement pour une relation amoureuse. En tout cas, je le dis aujourd'hui. On ne sait jamais, cela dit.
Alors, tout quitter pour lui, c'était petit A, la plus belle preuve d'amour que vous pouviez lui offrir. Petit B, le meilleur moyen d'échapper à deux, trois trucs qui vous collaient à la peau à Paris. Et petit C, une occasion parfaite d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors, la plus belle preuve d'amour, moi, je n'ai pas tout quitté pour lui. On a quitté ensemble, on a quitté Paris. Je pense pas qu'il y serait allé tout seul. Enfin, il m'a pas dit, si tu viens pas, j'y vais quand même. Tu viens avec moi, on y va. C'était plutôt dans la proposition de faire le truc ensemble. Petit A. Petit B, moi j'étais hyper contente en même temps de quitter plein de problèmes au boulot. Même si j'adorais le travail que j'avais à Paris, mais il y avait des trucs un peu compliqués, puis j'avais envie de travailler pour moi, et je me disais, tiens, c'est un peu l'atelier de rêve, New York. Donc, c'était une belle occasion d'y aller. Et puis j'adore partir, donc c'est aussi aller voir si l'herbe était plus belle, enfin, pouvoir profiter d'un moment pour aller voir, oui, aller vivre ailleurs. Donc, en fait, c'est un peu tout en même temps. Je suis pas très... J'aimerais bien pouvoir dire A, B, C, mais si les trois ensemble, oui.
Ça fait maintenant donc 5 mois que vous êtes à Paris. Vous êtes en pleine construction de votre nouvelle famille. Vous êtes enceinte. Vous avez appris le français. C'est peut-être un peu tôt pour tirer un bilan, mais qu'est-ce que vous pensez de cette expérience jusqu'à maintenant? Est-ce que vous regrettez? Est-ce qu'au contraire vous êtes contente? Est-ce que vous êtes là actuellement en construction?
Non, je regrette pas du tout de m'installer ici. Non, je regrette pas du tout. C'est une expérience pour moi et c'est très important avec vivre avec la personne que j'aime beaucoup. Donc, wherever I go, wherever I live, I will be happy.
Je pense que c'est difficile, c'est compliqué. Comme, à mon avis, beaucoup de personnes qui quittent leur pays de façon impulsive, comme je l'ai fait, je me suis projetée ailleurs, n'importe où, pour refaire peau neuve, pour me réinventer, pour presque me donner une autre identité. Et je me souviens très bien d'un ami, je me souviens qu'il m'avait dit « Mais qu'est-ce que tu crois on est comme une cloche à fromage, partout où on s'en va, on est sous notre cloche et on emmène toutes ces choses avec soi. » Et j'ai pas voulu entendre ça. Je lui dis mais non, et je sais que j'aurai d'autres inspirations, je sais que d'autres choses me viendront. Parce que déjà à l'époque, pour moi, Berlin, c'était quand même la noirceur, le froid. Donc j'avais quand même un peu une image pas très, on va dire, conviviale de cet endroit-là. Et je me suis vue ce cliché de l'artiste seul chez lui devant sa tasse de thé avec une sorte d'arrivée céleste d'une nouvelle inspiration et donc d'une nouvelle identité de femme et d'artiste. Et je me suis évidemment, mais complètement fourvoyée. Complètement.
«
C'était Sur les docks, tout quitter pour l'autre. Avec Christine, Marina et Novi. Prise de son François Rivalon. Mixage Antoine Viosa. Attaché de production Christine Gage et Laure-Hélène Planchet. Productrice coordinatrice Irène Omelianenko. Réalisation Nathalie Battus. Un documentaire de Christelle Le Polothèque.
Le documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcasts pour l'atterrissage, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, troisième épisode, compte joint ou compte séparé, quelle place pour l'argent dans le couple ?